Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou.
Bonjour à tous, je suis Agathe, une amie et collègue de Marielle. On a travaillé ensemble 3 ans dans le même service. Dès que Marielle a sorti son premier épisode de Compresse et Sparadra, je me suis dit que ses auditeurs seraient curieux d'en savoir un peu plus sur sa pratique infirmière. Marielle ne partage pas mon avis, mais elle a bien voulu me faire plaisir, donc aujourd'hui on inverse les rôles, et c'est elle qui répond aux questions. Bonne écoute.
Bonjour Marielle.
Bonjour Agathe.
Comment ça va?
Mais ça va très bien.
Merci.
Je suis très intimidée d'être là.
Je comprends. Mmh. Je suis très intimidante de toute façon. Est-ce que, la question paraît incongrue, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Voilà. Derrière ce micro.
Oui, oui, mais c'est une bonne façon de démarrer quand même. Donc je m'appelle Marielle, j'ai 33 ans et je suis là pour parler, j'imagine, de mon ancien métier.
Exactement.
Qui est pas définitivement arrêté d'ailleurs, qui est mon métier d'infirmière. Et voilà, je suis mariée, j'ai une petite fille plus si petite qui a 4 ans et demi.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de tes études, où est-ce que tu les as fait, comment ça s'est passé, le cheminement même que tu as eu pour te lancer dans ce métier, et enchaîner sur tes lieux d'exercice, vraiment chronologiquement si tu peux un petit peu, en donnant des détails sur les étapes, les changements, comme tu les as perçus.
Bien sûr. Alors moi, devenir infirmière, c'était pas une vocation. Ça m'est venu assez tard, enfin ça m'est pas venu à 40-50 ans, mais je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais petite. Enfin, je me souviens de trucs un peu rigolos, genre princesse ou ce genre de choses, mais en tout cas au lycée, c'était flou. Et on essayait de me convaincre, ce qui est peut-être pas d'ailleurs une mauvaise idée, qu'il fallait que je me concentre sur les matières dans lesquelles j'étais à l'aise. Mmh. Moi j'étais très... Enfin j'avais des facilités avec les langues étrangères, donc je m'intéressais tout logiquement à des carrières, marketing international, voire prof, des choses comme ça. Donc rien à voir avec le métier d'infirmière. Mais...
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Alors je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas je suis arrivée en terminale et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Et ces carrières-là me bottaient pas plus que ça, même si je voyais bien qu'à travers les yeux de mon père notamment, il y avait une forte envie parce que lui était dans ce domaine-là et je pense qu'il aurait bien aimé que je parte vers
cette voie-là. Lui était dans le commerce.
Oui, exactement. Ouais, directeur marketing, et je pense qu'il aurait bien voulu que je poursuive dans cette voie. Mm-hmm. J'ai finalement découvert sur le tard, enfin sur le coup de 17 ans, le métier d'orthophoniste, qui est un métier qui semblait, à mes yeux, rassembler tout ce qui me plaisait. Il y avait cet aspect humain, il y avait le fait de se rendre utile, travailler dans une équipe, auprès de publics assez différents. Puis je m'étais fait une idée très... peut-être fausse, je sais pas, mais très particulière du métier. Donc je me suis dit, c'est ce que je vais faire de ma vie. Le fait de pouvoir exercer en tant que salarié ou en libéral m'intéressait aussi.
Oui, il y a l'aspect des langues aussi qu'on retrouve à ce moment-là.
Oui, c'est à se demander. Tu vois, j'y ai jamais pensé, mais oui, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Puis j'ai toujours été assez passionnée d'orthographe aussi, de syntaxe, tout ça. Moi, j'ai fait les dicos d'or quand j'étais au collège. Bon, bref. Du coup, le métier d'orthophoniste, c'est un peu con, tu vois, mais ça collait bien. Donc, j'ai tenté le concours en terminale que j'ai raté, parce que c'est un concours qui était...
Alors, tout extrêmement dur.
Tout a changé maintenant avec Parcoursup et tout le tralala. Mais un concours très, très compliqué. Pour donner une idée, à Lyon, on était 3000 candidats. Je vois encore la salle. Vraiment un terrain de foot avec des tables. C'était complètement dingue. Et pour 90 reçus, donc vraiment, les 90 qui étaient reçus étaient ceux qui étaient préparés, qui avaient bossé. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, je m'étais concentrée essentiellement sur le bac. C'était déjà pas mal. Donc, j'ai raté le concours, mais c'était une façon de au moins voir à quoi m'attendre. Mm-hmm. Et je suis partie en prépa au concours d'orthophoniste à Lyon. Pourquoi à Lyon? C'est un peu compliqué. J'étais déjà avec Quentin, qui est devenu mon mari maintenant. Lui partait faire ses études à Lyon. Mes parents m'ont proposé très gentiment de partir faire mes études là-bas pour qu'on puisse vivre ensemble. Enfin bref, c'était une histoire un peu compliquée. Mais ouais, franchement, beaucoup de chance de ce côté-là. Et je me suis retrouvée en prépa. En prépa, il y a des orthophonistes qui ont intervenu au fur et à mesure de l'année pour nous présenter le métier. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Enfin, je...
Il y avait une idéalisation du truc.
Ah bah, complètement. Mais j'arriverais même pas à dire aujourd'hui ce qui m'a choquée, interpellée, qui m'a donné envie de penser à un autre métier. Mais je me suis dit, je vois encore l'orthophoniste dire, on est très seul. Je me suis dit, ah, très seul. Mais moi, j'ai pas très envie de travailler vraiment toute seule. Enfin, Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'orthophonistes en libéral, assez peu salariés. Bon, puis ça m'a plus trop convaincue, donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres options, et puis cette prépa au concours, donc moi j'étais en prépa orthophoniste, mais préparée globalement à l'intégralité des concours paramédicaux, alors donc métier d'infirmière, les autres je m'en souviens pas, mais il y avait ergo, thérapeute, psychomotricien, et peut-être d'autres, mais que j'ai oublié. Et je me suis dit, bah tiens, infirmière, en fait, ça serait peut-être pas mal. Choix qui a été assez mal reçu par mes parents, parce que pour eux, l'excellence, c'était médecine.
Oui.
Voilà. Donc, infirmière, c'était un peu en dessous. C'est un peu stupide comme raisonnement. Enfin, c'est même complètement stupide.
Du coup, tu penses qu'ils ont trouvé dommage à ce moment-là et se sont dit, pourquoi elle va pas en première année de médecine ?
Je pense. Alors du coup, c'était plus envisageable parce que bon, moi, j'avais pas du tout de facilité en maths, physique, etc. Et puis vu que j'étais en section à l'époque économique et sociale,
ouais.
Bon, médecine, c'était pas trop simple de repartir vers ça. Mais choix très très contesté de leur part. Beaucoup de discussions assez houleuses à me dire qu'il fallait guillemets taper un peu plus haut. Enfin, bon, ça a été assez compliqué. Et j'avais pas trop de personnes à qui me raccrocher parce que dans mon entourage, personne n'exerçait ce métier. Donc j'ai pas pu discuter avec, je sais pas, une tante, une cousine, j'en sais rien, mais voilà, les carrières médicales, paramédicales dans ma famille, c'était pas du tout un truc, quoi. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai essayé de faire des stages d'observation pour vérifier que le métier me plaise bien. Ma belle-mère, à l'époque, était secrétaire médicale, donc j'ai pu aller au bloc opératoire voir des choses avec...
Incroyable.
J'ai eu beaucoup de chance. Non, c'était chouette. Et je me suis dit, bah ouais, je crois que ce métier, il me plaît bien. Donc j'ai passé les concours d'infirmière en parallèle des concours d'orthophoniste. J'ai passé les concours d'orthophoniste plus parce que j'avais démarré quelque chose, donc je me suis dit maintenant je finis. Et avec maintenant 15 ans de recul, un peu aussi pour faire plaisir à mes parents.
D'accord.
Enfin, je pense, parce que du coup, voilà, c'était une façon de leur dire, bah voilà, maintenant que j'ai travaillé, je les mm-hmm. passe. Alors j'ai tout donné, enfin j'y suis pas allée en me disant...
Tu l'as fait à fond.
Ouais. Ah, vraiment, j'ai fait à fond. Et j'ai fini par avoir un concours d'orthophoniste à Nice.
Ah !
Voilà, ce qui a été... Je n'en revenais pas. Ouais, quand j'ai reçu le coup de fil, je n'en revenais pas. Ou le courrier.
Parce qu'il y a des gens qui font plusieurs années de prépa, et au terme duquel, ils n'ont pas le concours. Quoi.
Ah ben oui, complètement. Donc c'est à croire que c'est la fois où t'as plus envie que ça se produit. Enfin, je sais pas si c'est un peu un signe du destin ou j'en sais rien, mais... À Nice, il y avait 30 inscrits pour 400 ou 500. Le ratio était un peu moins important qu'à Lyon, mais quand même.
Ouais.
Donc là, mes parents me font me re-questionner à nouveau avec un peu cette idée de « Mais attends, t'as quand même réussi à avoir ce concours qui est... »
Chaud.
Voilà, qui est assez difficile à obtenir. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Et puis je suis restée campée sur mes positions et j'ai dit « Non, je veux vraiment être infirmière. » Et donc les concours d'infirmière, j'en ai passé 4, peut-être 3 ou 4. Les concours d'orthophoniste, 3 ou 4 aussi. Et je crois que j'ai eu tous les concours d'infirmière, donc il y avait, je sais plus, Annecy, Lyon, deux écoles à Lyon, et puis une autre école. Je me souviens plus de la dernière. Et voilà, me voilà arrivée en école d'infirmière. Entre-temps, je visite avec mon père, je sais pas pourquoi ma mère était pas là, l'école que j'ai fini par... dans laquelle j'ai fini par, voilà, j'ai fini par avoir par le biais du concours à Lyon, et mon père a un coup de foot pour l'école.
Oh.
Dieu merci, voilà, et il me dit mais tu vas être très bien ici, très bon feeling avec la direction, l'équipe enseignante, et donc j'étais contente parce que j'avais enfin un truc un peu...
Une validation paternelle.
Exactement, ouais. Non mais c'est bête, hein, mais à cet âge-là je crois que...
C'est important,
Ouais c'est important, je pense qu'aujourd'hui...
C'est le premier grand choix d'adulte que tu fais, donc ouais.
Complètement, je crois qu'aujourd'hui je le vois d'un autre œil, mais à l'époque c'était très important pour moi. Donc, voilà, me voilà lancée à l'école d'infirmière avec quand même, au fond de moi, l'angoisse que ça me plaise pas.
J'ose poser la question.
Mais je t'en prie.
On est en quelle année ?
Ah, pardon, oui, alors
tu démarres l'école d'infirmière.
En 2007.
Voilà.
Ouais, exactement, on est en 2007, donc j'ai 19 ans.
Okay. Alors,
du coup, j'ai perdu, entre guillemets, un an avec cette prépa. Que j'ai pas vraiment perdu parce que...
Parce que 19, pour rentrer en école d'infirmière, c'est très bien.
Ouais, c'est très correct, ça m'a quand même apporté une rigueur pour travailler et tout, c'était quand même... Mm-hmm. Non, il y avait vraiment pas de soucis. Je démarre donc l'école en septembre et le premier stage arrive vite, hein, je me souviens pas, mais je crois janvier ou décembre-janvier, donc ça arrive assez vite. Les cours théoriques me plaisent bien. Je me plais bien, j'apprends des choses qui m'intéressent et le premier stage arrive et on entend parler de stages, voilà, il y a des gens qui arrivent en gériatrie, en psychiatrie, et moi j'arrive en maternité. Qui est quand même un stage assez incroyable parce que bah déjà c'est un service qui est heureux hors
ouais, c'est la joie, c'est la vie, c'est ouais,
c'est vraiment c'est très sympa pour démarrer un stage. Je me retrouve encadrée par des infirmières, par des sages-femmes, par des étudiants de sages-femmes qui me prennent sous leur aile Et c'est un premier pied dans les soins infirmiers, mais c'est...
Beaucoup de bienveillance autour de toi.
Ah non, mais c'était incroyable. Dans un très grand hôpital lyonnais, donc un grand service, beaucoup de monde, beaucoup de passages, beaucoup de noms à retenir, beaucoup de stimulation. Je prenais le métro, c'était à l'autre bout de Lyon, bon bref, c'est des détails aussi, mais c'était beaucoup de chamboulement pour moi, je venais d'une petite ville. Donc ça c'est le premier stage, je suis conquise. Deuxième stage, j'arrive en gériatrie, donc je fais vraiment les deux extrêmes de la vie en moins de 3 mois. Un stage beaucoup plus dur par le manque de moyens, mais pas moins intéressant. Après j'arrive en psychiatrie, je m'en souviens, les autres stages je les ai oubliés, mais la première année je m'en souviens très bien. En psychiatrie j'ai peur, vraiment je ne peux pas dire autrement.
On est tous terrorisés je pense avant le premier stage de psychiatrie.
Ouais c'est déjà il y a plein de choses même actuellement pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup d'inconnus et puis il y a beaucoup de peur parce qu'il y a de l'inconnu. Enfin voilà, j'ai pas de réponse à plein de choses. Donc je suis un peu effrayée. Le stage se passe bien, mais on m'écrit dans le rapport de stage « pas faite pour la psy ». Enfin, je sais plus comment c'est écrit.
Marielle va s'épanouir ailleurs.
Il faudrait que je retrouve la feuille, mais c'était très... En plus, c'était vraiment
bon
très...
Bon cheval, mais n'aime pas le terrain lourd.
exactement. Je sais plus comment c'est écrit, mais c'est très mignon comme c'est écrit.
D'accord.
Et je me souviens qu'à un moment, ils me donnent un stéthoscope et un brassard à tension, et je dois prendre les tensions de tous les résidents. Ils font ça genre une fois par mois, ou une fois par semaine, je me souviens pas. Et je suis hyper épanouie de faire un peu des soins techniques. Et ils me disent, ah ouais...
somatique, ça t'intéresse quoi.
Voilà, de toute évidence, la psy.
Savoir quelle tension ils ont, ça te plaît.
Oui. Ouais. D'avoir des réponses un peu plus concrètes.
Ouais, bon, chiffres, quelque chose quoi.
Voilà, des trucs un peu tangibles quoi. Donc le stage se termine correctement. Et le dernier stage de première année, j'arrive en soins intensifs. Et c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que ça a été le début. Donc je reviens à Annecy pour l'été et j'ai la chance de pouvoir faire le stage dans ma ville. On avait cette possibilité là à l'époque. Je sais pas si on peut encore le faire aujourd'hui. Et j'arrive dans un service de soins intensifs et là, c'est le coup de foudre. Et ça ne m'a jamais quittée. C'est un secteur qui m'a beaucoup apporté sur le côté esprit d'équipe, sur le fait que le service soit de taille humaine, qu'on puisse vraiment connaître les patients par cœur, qu'il y ait une très bonne cohésion avec les médecins, avec même pas que les médecins, les kinés, les aides-soignants des ASH. Enfin, c'est vraiment un service que je découvre et que j'adore tout de suite. Et du coup, le reste de la formation, je fais en sorte, dès que j'ai la possibilité de donner... Alors, je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais on était tous plus ou moins en contact avec la personne qui nous trouvait nos stages.
Oui.
Et on pouvait lui donner... Je sais pas si t'avais ça, toi, mais on pouvait lui donner un peu des impulsions sur des trucs qu'on aimait.
Nous, c'était assez... c'était complexe, mais...
Donc, c'est la personne qui choisissait à 100% le...
Ouais. Puis, il y a des gens qui avaient des parcours hyper... ils arrivaient en troisième année, ils avaient fait peu de stages techniques. Enfin, c'était assez compliqué d'avoir un stage.
Elle faisait l'effort déjà de varier les lieux de stage. Mm-hmm. Et puis, quand il y avait moyen de partir sur...
Quelque chose qui t'intéresse.
Elle le faisait. Ouais. Donc, stage libre, je demande des soins intensifs. Stage pré-pro, je demande le stage à soins intensifs. Il y a un stage d'été, soins intensifs. Stage diplôme d'état, soins intensifs. Voilà, je...
Waouh.
Ouais, je fais
donc
en sorte...
Donc t'as fait 3 stages sur 3 ans en soins intensifs.
3 ou 4, ouais.
Ah ouais, ok.
Ouais. Je crois que j'ai réussi cet exploit-là. Parce que c'était des stages qui étaient bien demandés.
Personne ne fait ça, enfin, pour ceux qui ne sont pas du tout du milieu, si on a la chance d'en faire un dans le parcours, c'est déjà super, quoi.
Ouais, ouais. Mmh. Bon, alors à Lyon aussi, il faut dire que... il y avait beaucoup de terrain de stage.
Ouais,
je pense que dans une autre ville, ville genre Annecy ou une autre ville, c'est pas possible.
Ouais.
Mais à Annecy, des services... Ah,
oui,
Lyon,
je pense que là, il y a la différence aussi, quoi. T'étais vraiment...
Dans la moindre clinique, il y avait un service au moins de soins continus. Voilà, ouais. C'est un peu en dessous des soins intensifs en termes de prise en charge, mais il y avait cette possibilité-là.
Je voulais te poser comme question, en fait, pourquoi cet attrait vers les soins intensifs ? Qu'est-ce qui a fait naître cet amour pour le soin intensif ? Comment t'expliques ça ?
Ouais, je sais, c'est une bonne question, ouais. Je me découvre comme l'infirmière que je voudrais être. J'ai l'impression que je maîtrise plein de choses et qu'à la fois, si j'ai des questions, bah, je peux faire intervenir plein d'acteurs pour y répondre. Et vraiment, je dis pas que les autres de stage étaient pas intéressants, mais c'est le premier endroit où vraiment je me sens complètement à ma place.
Mais c'est quoi ? C'est le fait que finalement, on est peu de patients par rapport à l'étage ? Ou, l'étage, quand je dis ça, c'est le service de soins généraux où on se retrouve avec 8-10 patients, ou c'est le côté sécurisant d'avoir un patient qui est scopé, donc monitoré, c'est-à-dire qu'on voit ses paramètres vitaux. C'est quoi qui te... fait du bien, en fait, aux soins intensifs ?
C'était surtout d'avoir un public un peu réduit. d'avoir un très très bon équilibre entre les soins techniques et les soins relationnels. J'avais l'impression que j'avais le temps de discuter, que je connaissais mes patients par cœur, que quand je rentrais le soir, chez moi, je savais tout d'eux. Et pas que organiquement ce qui se passait ou somatiquement, mais je connaissais leur vie, je connaissais leur entourage, leurs passions, leurs intérêts. Ouais, je sais pas, ça avait ce côté très valorisant, et puis ce travail d'équipe que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça. Enfin, j'aurais probablement pas pu faire un métier où je travaille toute seule, où j'interagis avec personne. Enfin, et puis du coup, ça a continué par la suite, mais je crois que c'est ça qui m'a attirée dans ce type de service.
Et tu sors donc diplômée en quelle année ?
Donc en 2010, fin d'année 2010, parce qu'à l'époque, les études duraient 3 ans et demi. Donc je passe mon diplôme d'état, alors c'est pas tout à fait en soins intensifs, je crois que c'était soins palliatifs, il y avait un peu de médecine aussi, mais c'était un service qui était quand même assez aigu.
Polyvalent, ouais.
Ouais, assez polyvalent puis assez aigu. Donc j'ai le diplôme en poche, et donc on est dans une conjoncture qui est très différente d'aujourd'hui, où je lance mes CV dans 3 établissements lyonnais, en précisant que j'aime bien...
Public, privé ?
Un peu des deux. Mm-hmm. Un peu des deux. En précisant que j'aime bien les soins continus. Donc je me permets de l'écrire dans le CV ou dans la lettre de motivation, je sais plus comment je l'écris. En tout cas, je valorise le fait que j'ai fait pas mal de stages dans ces services-là et que ça m'attire. Et parmi ces 3 CV que j'envoie dans l'un des services dans lesquels j'ai fait un stage. En me disant, ça serait quand même pas mal.
Et puis en fait, je connais l'équipe,
c'est un peu rassurant.
Les lieux, le logiciel éventuellement.
Ouais. Exactement. Donc je trouve que c'est quand même un peu rassurant. Résultat, je suis prise dans les 3 postes. Voilà, je le redis, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un truc qui n'existe plus. Mais...
Incroyable. Surtout en sortie d'école, quoi.
Mais c'était le cas pour beaucoup de monde. Hein. Vraiment, marché de l'emploi, c'était très différent. Et donc, j'ai alors, le choix parmi les 3. Donc ça, c'est incroyable. Et donc, je choisis ce fameux hôpital dans lequel j'ai déjà fait un stage. Je me retrouve devant la responsable des ressources humaines. Je lui dis, mais moi, j'aime bien les soins intensifs. Et elle me dit, ah non, mais on met pas de jeunes diplômés en soins intensifs. Or, je suis reçue comme ça dans le bureau. Oh, alors, je tombe des nues. Et je lui dis, mais que faire ? Ah bah, vous allez faire vos armes dans un autre service, et puis, petit à petit, si une place se libère, on vous intègre aux soins intensifs, mais dans 1 an, 2 ans, tralala.
Mais là, ça devait être la douche froide.
Ah, ça m'a...
dit, qu'est-ce que je fous là, quoi ?
Ça m'a un peu décontenancé, et puis bon, je finis par comprendre que ça a l'air de se passer comme ça pour tout le monde. Donc, c'est un peu fataliste, mais je me dis, bon, soit, hein. Donc j'arrive en service, donc les fameux services de chirurgie post-opératoire. Donc là, ça n'a rien à voir, c'est pas 8, 9, 12, 14, 15, mais, ouais. C'est une folie. Et je me souviens d'une conversation avec Morgane qui est donc ma meilleure amie, qui est dans l'épisode numéro 1 du podcast, où on se dit, ça fait quand même bizarre quand les gens disent, vous êtes l'infirmière ? Et que t'as qu'une envie, c'est de te retourner pour dire, non, la voici. Et en fait, bah non, c'est toi. Voilà, ouais. Donc ça, grosse...
pression aussi.
Ouais, grosse pression, grosse chape de plomb sur les épaules. Globalement, ça se passe bien, mais je suis pas tout à fait dans mon élément, parce que j'ai vraiment l'impression de survoler beaucoup de choses, parce que je connais pas les patients comme je voudrais. T'as parlé du fait des scopes, c'est un détail, mais le fait que les patients soient dans une chambre derrière une porte et que je ne les ai pas sous les yeux, pas visuellement, mais que j'ai pas leur constante sous les yeux, que j'ai pas un monitorage de leur constante en continu, ne me rassure pas trop. Donc je suis pas encore infirmière, enfin je suis tout juste infirmière, mais j'ai déjà des réflexes de soins intensifs, ce qui est déjà un problème. Donc, je me plais dans le service, globalement, j'ai des super collègues, je bosse avec plein de filles qui étaient d'ailleurs à l'école avec moi.
Vous faites quoi ? Vous faites de la chirurgie polyvalente, du coup ?
Ah oui, tout.
Ok.
Je crois qu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque, il y a de la chirurgie thoracique, digestive, uro, néphro...
Donc ça, c'est aussi assez... un peu stressant quand même, puisque c'est pas une seule spécialité, c'est tout, donc il faut être assez à l'aise avec beaucoup de pathologies et de chirurgie, quoi.
Je crois qu'il n'y avait pas de neuro et pas de... Alors, il n'y avait pas d'ortho, parce que l'ortho était dans un service.
Peut-être. Des fois, il y
avait... Ouais, si, on avait quand même. Si, on en avait aussi. Non, il n'y avait pas d'ortho, parce qu'ils étaient dans un étage particulier, ce qu'on disait, on ne mélange pas la chirurgie propre et sale. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise idée. La chirurgie propre étant l'ortho, la chirurgie sale étant plutôt le digestif et le reste. Il n'y a pas de neuro, ou en tout cas pas grand-chose, et il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Mais il y a quand même de la chirurgie thoracique. Et un mois ou deux après avoir démarré dans ce service, on vient me chercher en me disant « Il y a un poste qui se libère aux soins intensifs. » Je dis « C'est une blague ?» On vient de me faire tout un laïus en me disant « C'est pas possible, pas pour maintenant. » Et là, il y a une place qui se libère. Bon, alors je saute sur l'occasion, hein, je fais pas la fine bouche. Et donc, je retrouve ce service...
Merveilleux.
Merveilleux, ouais, que j'avais tant aimé. Alors, qui est un service difficile. Où on est un peu...
Vous êtes dans une grosse structure, c'est du privé, du public, c'est quoi ?
Alors, c'est du privé, mais à Lyon, il y a beaucoup d'hôpitaux privés qui sont de taille très généreuse. Je crois qu'il y avait 500 ou 700 lits au total.
Oui, donc c'est énorme.
Donc c'est grand.
Ok.
Le service de soins intensifs est petit. Il évolue, il va évoluer après au fil des années où moi j'y exerce, mais au départ, il fait... on doit être 3 infirmières avec 4 patients, il doit faire 12 lits. C'est pas énorme. Puis après, il en fait 15, 20 lits avec les années.
Et du coup, c'est la médecine, la chirurgie, ça s'organise comment? Il y a un service d'urgence dans cette clinique?
Il y a un service d'urgence.
Dans cet hôpital privé?
Oui, il y a un service d'urgence. Mais on reçoit que des patients, on reçoit essentiellement des patients en post-opératoire immédiat, okay. Soit des chirurgies très lourdes, soit des chirurgies plus simples avec des patients qui ont des antécédents, des comorbidités assez catastrophiques. Mais on reçoit pas d'accidentés de la route, on reçoit pas de choses comme ça,
okay.
On reçoit pas de médecine non plus, c'est que du post-op. Et on peut éventuellement recevoir un patient qui est, par exemple, en post-opératoire dans son service de chirurgie où tout se passe bien, qui fait une complication et qui arrive chez nous. Et de la médecine, ça arrive, mais c'est très très rare. La médecine, donc des gens pas opérés. Donc je m'épanouis beaucoup dans ce service, j'apprends énormément de choses, mais vraiment énormément. J'ai quand même une difficulté, c'est que pendant un moment, on me prend quand même toujours pour la stagiaire, alors que là j'arrive et je suis diplômée. Mais il y a des personnes de l'équipe qui me considèrent toujours comme une stagiaire parce qu'ils m'ont connue comme une stagiaire, donc il faut un peu. Voilà, puis moi c'est pas trop mon fort de m'imposer, donc j'ai un peu de mal à faire comprendre que non, j'ai un diplôme. Bon, ça dure pas très longtemps, mais ça.
Pour rappel, ça t'est quand même arrivé il y a quoi, un an avec moi? Tu te souviens pas, il y a une patiente qui nous a dit on m'envoie que les stagiaires ou quoi, tu te souviens?
Ah non.
Et si, et on a dit mais non, mais enfin, toi t'avais plus de 30 ans.
Ah, je m'en souviens pas.
Si, on était avec Leslie.
C'était flatteur.
Ouais,
moi c'était bien aimé.
Flatteur ou pas, mais
on sait pas
tellement sécurité.
Oui, parce qu'on n'arrive pas trop à savoir du coup si on croit qu'on est jeune physiquement, ce qui est gentil, ou si on n'a pas assez d'assurance. Ouais, c'est un faux compliment, quoi. Donc voilà, j'évolue dans ce service, mais je me sens très souvent livrée à moi-même, et non pas parce que mes collègues m'aident pas du tout, il y a un très bon sentiment d'équipe, d'esprit d'équipe, mais les médecins sont pas très souvent là, on est quand même vachement dans la débrouillardise, et il y a quand même pas mal de fois où je me dis, on a frôlé le pire sur pas mal de situations, et c'est extrêmement formateur, vraiment avec le recul je peux le dire, mais c'était aussi très inquiétant, parfois, et le rythme était effréné, parfois donc j'étais en 12 heures, parfois j'avais pas le temps de faire pipi pendant 12 heures, j'avais parfois un quart d'heure de pause pour manger le midi, donc je rentrais le soir, lessivée, Quentin a des... mon mari a des souvenirs de soir où je rentre et je suis en larmes, et où je suis épuisée, donc voilà, c'est un peu paradoxal.
C'est des patients intubés?
Alors ils sont pas intubés. Ils peuvent finir par l'être si ça décompense, mais on les transfère rapidement en service de réanimation. Il n'y a pas de service de réanimation dans l'hôpital, donc ils sont transférés à l'extérieur.
Okay.
Malgré tout, on a quand même des situations, alors ils ne sont pas intubés, mais des fois je me disais il vaudrait mieux en avoir quelques-uns intubés stables plutôt que ce qu'on traverse, quoi.
Que des gens quand même assez instables,
avec des situations un peu complexes et, mais c'est, voilà, c'est très formateur.
Du coup, ça m'amène à ma question suivante, c'est parfait. quelles sont, selon toi, les qualités indispensables pour une infirmière donc de soins intensifs et ce qu'on appelle SSPI, donc salle de surveillance post-interventionnelle? Est-ce que tu arrives à donner des traits de caractère et puis, à contrario, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, toujours, pour quel type de profil ça ne conviendrait pas? J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui se projettent dans ce futur métier ou voilà, qui ont envie de savoir un petit peu.
Ouais, c'est une super question. Les qualités indispensables. Alors, faut pas avoir envie de se trouver une routine bien menée. C'est pas un problème, mais si vous avez envie d'un truc un peu plus routinier, c'est pas en soins intensifs qu'on trouvera ça. Et la routine ne veut pas dire qu'on s'ennuie ou qu'il n'y a pas d'action ou que c'est lent ou autre, mais il n'y a pas une journée qui se ressemble. Donc déjà ça, je crois qu'il faut être assez prêt à cette éventualité-là. La notion de protocole, par exemple, est assez... en tout cas, à l'époque, quand j'étais à Lyon, c'était moins le cas après, mais c'était lunaire. Enfin, moi, on parlait de protocole, je disais, protocole de quoi? On se débrouille avec ce qu'on a. Donc, il n'y a pas une situation qui se ressemble.
C'est assez vrai. Enfin, nous, aujourd'hui, c'est vrai que dans l'établissement dans lequel on a travaillé ensemble, il n'y avait pas de protocole non plus. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément la chose qui est...
Mais quand même un peu des procédures, sans parler de protocole, quand même des procédures qui existaient, alors que quand j'étais à Lyon, vraiment, la notion procédure n'existait pas.
Ouais.
Sans filet sur pas mal de choses. Faut pas avoir peur de l'urgence vitale. D'être assise en train d'écrire un truc sur son dossier, et puis d'un coup faut se lever, il y a un arrêt cardiaque, voilà. Et puis pouvoir du coup passer d'une émotion, d'une stabilité d'émotion au feu à 10 000 à l'heure la seconde d'après. Donc voilà, une bonne capacité d'adaptation et une grande envie de travailler en équipe, parce qu'on a beau avoir un nombre donné de patients, en fait faut quand même être capable d'aller donner un coup de main, de recevoir l'aide de quelqu'un.
De se rendre compte que ta collègue, elle est un peu dans la panade et
exactement.
D'aller spontanément vers elle, quoi.
Et c'est pas parce que moi j'ai 4 patients que toi t'en as 4, que chacun est de son côté.
Donc... Voire même t'en as que 3, mais t'es un peu plus emprunté, faut y aller, quoi.
Il y a même pas de logique mathématique, genre ah, j'ai statistiquement moins de patients donc ça va être plus simple. Bah non, en fait, il y a plein de situations différentes. De savoir déléguer, de savoir travailler en équipe, de toujours réfléchir ensemble, de voilà, ça c'est les qualités auxquelles je pense.
Si tu dois dire à une jeune infirmière, par exemple, pour toi, comme tu l'as fait, j'imagine c'est pas un souci de commencer par ce service.
Moi j'ai pas trouvé ça problématique, c'était très formateur. On a au moins cette chance quand on est jeune diplômé, c'est qu'on emmagasine... Enfin, du coup, on sort des études, donc on emmagasine beaucoup d'infos en peu de temps. Donc pour moi, c'est même une bonne opportunité de démarrer ça après ses études. Parce que du coup, moi, j'ai appris tellement de choses en si peu de temps que je me dis que peut-être à 40-50 ans, je sais pas si j'aurais été capable d'apprendre autant de choses en si peu de temps. J'ai intégré tout très vite. J'avais une énergie que j'ai même moins aujourd'hui, toi, sans dire je suis pas à la retraite, hein, mais j'ai quand même moins d'énergie aujourd'hui. Je pense que j'aurais été capable de faire moins de choses. Donc non, franchement, faut pas avoir peur. Et puis... ça peut paraître très impressionnant, beaucoup de fils, beaucoup de câbles, beaucoup de médicaments, beaucoup de pansements. Et puis après, on comprend à quoi sert chaque chose, puis après, on s'y fait, en fait. Donc, faut pas être effrayé non plus par l'aspect visuel de certaines situations qui peut être un peu interpellant au début.
Je voulais te demander, toi, par rapport à ce que t'as vécu, est-ce que t'as des petites clés d'adaptation au stress pour quelqu'un, justement, qui veut débuter ou qui change de service et qui va vers quelque chose un peu plus tendu pour s'adapter à ces changements de rythme comme ça, ces grosses montées d'adrénaline qu'on peut avoir. Comment toi tu fais pour ne pas te sentir débordée et mince, qu'est-ce que je faisais, où on va?
Alors déjà, prioriser. Alors c'est là, enfonçage de porte ouverte, mais vraiment, moi il m'est arrivé de m'occuper de situations assez cata, puis genre d'avoir la cadre qui vient me voir et qui me dit « t'as pas signé le bon de commande pour la pharmacie ?» Ah non mais vraiment... Mais rien à foutre, hein, je suis navrée, mais vraiment rien à foutre. Et je peux comprendre que pour elle, à ce moment-là, ça soit un problème, mais pour moi, c'est pas un problème. Donc voilà, pas avoir peur de compartimenter un peu son cerveau et d'aller à l'essentiel.
Ok.
Ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je fais genre, je sors des grandes théories, mais beaucoup, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ensuite,
ça, c'est venu avec l'expérience et le recul, quoi.
L'expérience, l'assurance, ouais, complètement. Ensuite, quel que soit le service dans lequel vous allez. C'est valable du coup pour l'expérience que j'ai eue après, parce que j'ai été intérimaire pendant 6 mois. Il y a quand même des choses qui reviennent. S'il y a un gros problème, il y a un numéro à appeler, donc il faut le connaître. Il y a un chariot d'urgence, il faut savoir où il est et comment il est organisé. Et voilà, il y a un peu des gens, soit des postes ou des personnes ressources comme ça, que vous pouvez contacter.
Tout de suite, quoi.
Exactement. Et il faut faire l'effort de les identifier. Donc vous allez pouvoir vous sortir de n'importe quelle situation catastrophique. Vous n'allez pas pouvoir vous situer... Il faut sortir de toutes les situations... Mais celles qui sont catastrophiques, il faut pouvoir connaître les acteurs...
Ou trouver de l'aide, quoi.
Ouais, ou trouver de l'aide. Ça, c'est très valable en intérim. Vraiment, tu passes d'une clinique à l'autre. Voilà, donc bien passer du temps sur ça. S'il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, j'appuie sur quel bouton, parce que parfois, il y a des boutons. T'appuies sur un bouton, ça sonne dans tout l'hôpital. J'appelle quel numéro, parce que parfois, c'est des numéros. Où est le chariot d'urgence? Et tu l'ouvres et tu regardes ce qu'il y a dedans. Voilà, parce qu'il n'y en a pas un qui fait pareil. Ça aussi, c'est...
Et donc toi, une fois que t'as fait ça, tu sais que tu vas gérer le stress au moment où t'as un patient qui va se dégrader, parce que tu sais ce que tu as à faire, entre guillemets, t'as ta trame un peu dans ta tête.
Au moins l'urgence.
J'ai un qui se dégrade, tac, le numéro de médecin, je l'ai noté là, le chariot, je sais qu'il est là, je rapproche tout ça de moi.
Exactement.
Ok.
Exactement. Et après, je parle pas des autres trucs qui peuvent arriver au milieu de nulle part, genre un patient qui te demande un papier... pour un dossier administratif, t'as aucune idée d'où il est, peu importe. Voilà. Tu y arriveras, tu trouveras quelqu'un pour t'aider, mais au moins pour l'urgence vitale.
Ta ceinture de sécurité, c'est ça, et du coup, ça, ça t'aide à pas stresser pour un nouveau job.
C'est un peu bête, mais ouais.
Ok. Donc, tu t'es bien épanouie dans ce service. Pendant combien de temps? Et après, t'as fait quoi?
Alors, j'y suis restée de tout début 2011 à mi-2013, et puis après, avec...
Deux ans et demi, ouais.
Qui m'ont paru, vraiment, quand j'y pense, j'ai l'impression que j'y ai passé 10 ans. Et à la fois, c'est passé très vite, c'était très riche. Mais c'était très très riche. Et je suis partie de ce service, par choix, parce que j'ai déménagé, mais sans jamais avoir l'impression d'en avoir fait le tour. Vraiment. Okay. Et pourtant, c'était toujours les mêmes pathologies qui revenaient, toujours les mêmes profils de patients, toujours les mêmes médecins avec lesquels on évoluait, mais j'ai l'impression que j'en ai jamais fait le tour. C'était assez incroyable. Après, avec Quentin, on a décidé de se rapprocher de notre Haute-Savoie natale, d'origine pour moi, et donc je suis arrivée, bon, long story short, je vais pas tout rentrer dans des détails, mais donc je suis arrivée à Genève pour exercer en Suisse.
Ok. Donc dans Quel service ?
Alors du coup, je forte de cette expérience de 2 ans et demi en soins intensifs, j'ai envoyé des CV un peu partout en me disant... Alors pourtant, moi qui n'ai aucune confiance en moi, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui voudra de moi. Là, dans les CV, j'avais pas écrit, enfin dans les lettres de motivation, j'avais pas écrit forcément que je voulais des soins intensifs, mais voilà, j'étais assez ouverte. Alors tout le monde m'a répondu. Vraiment, c'est un truc que je retiens de cette expérience en Suisse, mais toutes les cliniques, tous les établissements, les hôpitaux auxquels j'ai écrit m'ont répondu en me disant, non merci. Voilà.
Ok.
Je me retrouve... dans le bassin Genevois avec Quentin qui a donc du travail parce que c'était voilà le point de départ, c'était que lui trouve du travail et que moi je suive parce que voilà, infirmière, je m'étais dit pas de raison, et je me retrouve sans rien. Donc je me dis quand même va falloir travailler ma vieille. Donc je m'inscris en agence d'intérim à Genève sur les conseils de je sais même pas sur les conseils de qui, je pense j'avais fait un peu des recherches sur internet aussi. Donc okay. Je vais chez Manpower, vraiment okay. L'agence que tout le monde connaît à Genève. Je rencontre une charmante dame. Dans l'intervalle, j'avais quand même fait toutes les démarches administratives pour pouvoir travailler en Suisse. Je mettrai dans la description de l'épisode une vidéo que j'avais faite où j'expliquais tout, parce que je vais peut-être pas revenir dans tous les détails ici. Okay. D'ailleurs, ça a peut-être changé depuis 2013, je ne sais pas. Donc,
dans les grandes lignes, c'est ça, je pense.
Voilà, dans les grandes lignes, faire valider son diplôme auprès de la Croix-Rouge suisse, la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne. Et ça, c'est valable pour le canton de Genève, c'est pas valable pour tous les cantons, une autorisation de droit de pratique dans le canton de Genève. C'est 2 formalités administratives qui coûtent cher quand même, 400-500 pour le diplôme.
Ouais.
Et l'autre, je m'en souviens pas. Je crois tout pareil.
Pas tout à fait 1000 euros, mais c'est un investissement, ouais, quand même.
Voilà, alors après, c'est valable à vie, il n'y a plus de soucis, mais voilà, faut être quand même au courant que...
À savoir.
Qu'il y a cette dépense. Hein.
On n'y va pas forcément pour un mois, quoi.
Et anticipez bien si c'est votre cas, parce que les délais sont... Bah, en plus, ça va du simple au double selon la période de l'année. Enfin, moi, du coup, c'est arrivé assez vite. Je crois qu'en 2-3 mois, c'était fait. Donc, j'arrive vers cette dame à Manpower avec donc tous ses papiers en règle. Donc, voilà, j'étais prête à exercer. Et elle me dit, du coup, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et je lui dis, je prends tout. J'ai pas de travail. Je veux travailler. Je suis hyper motivée. Je dis juste, la psychiatrie, c'est vraiment toujours pas trop mon truc. Et... pas de pédiatrie parce que je n'en ai jamais fait et que ça m'effraie. Et elle me dit, ah non, mais on n'envoie pas quelqu'un en pédiatrie s'il n'a pas fait pédiatrie. C'est, voilà, pour des raisons de dosage, de médicaments, de choses qu'on connaît pas, c'est vraiment une spécialité. Donc elle me dit, ah bah ici, il y a que ça. Mais elle me dit, le reste, tout vous va? Je dis, oui, gériatrie, oui, chir, oui, médecine aussi. Bon, bah très bien, jour, nuit, week-end. Ah, je dis, peu importe, à l'époque, j'avais pas d'enfant, rien. Et je rentre en bus, et dans le bus, elle m'appelle. Vraiment, hein. Donc je vois un numéro suisse, je dis, c'est quand même marrant. Oui, Marielle, c'est pour vous dire, vous démarrez ce soir à la clinique à Genève, aux urgences de nuit.
Waouh, ok, c'est parti.
Alors là, mon sang ne fait qu'un tour, je me dis, qu'est-ce que c'est...
Urgence, nuit, hein?
Qu'est-ce que je fais? Donc c'est, bon, pour rappel, ma première expérience en Suisse, ma première expérience aux urgences, et ma première expérience de nuit. Ça fait quand même beaucoup, et en fait, aujourd'hui...
Et tu as donc à peine 3 années d'expérience en tant qu'infirmière.
Exactement.
Donc, tu restes... bébé, enfin, jeune infirmière, on va dire.
Bah, j'ai 25-26 ans.
Ok, super.
Voilà, donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Et en fait, tout de suite, je lui dis, oui. Parce que si je refuse ça, je vais jamais me lancer, en fait. Donc j'accepte. Et je lui dis quand même, je suis pas toute seule. Non, aucun risque. Il y a une aide-soignante avec vous, j'ai demandé. Elle est hyper qualifiée, ça fait 10 ans qu'elle travaille dans la clinique. Il y a une infirmière sur le pool qui fait le tour de la clinique toute la nuit, donc vous décrochez le téléphone, vous l'appelez, elle vient vous voir. C'est une super clinique, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bon, très bien, je rentre chez moi, donc là je trouve un plan de tram pour aller, tu vois, un peu des trucs logistiques comme ça. Et donc j'arrive dans ce service, premier réflexe, je dis qui appeler en cas d'urgence et où est le chariot d'urgence. Voilà, on en revient toujours au même truc.
Ouais, la ceinture de sécurité.
Voilà, et on me dit tu seras toute seule.
Cool.
Génial.
Incroyable.
Je dis, oui, l'aide-soignante. Ah bah non, ce soir, elle peut pas venir.
Gastro.
Je sais plus pour quelle raison. Je dis, donc c'était pas prévu. Non, mais il y a machine, l'infirmière sur le pool qui peut t'aider et qui viendra te voir dans la nuit. En effet, cette infirmière très sympa vient me voir à plusieurs reprises dans la nuit et m'aide beaucoup. Bon, moralité, je fais mes 12 heures de nuit aux urgences. Ça se passe bien. Il n'y a pas de gros soucis. Je rentre le lendemain, je suis épuisée en fait, de pression, de stress et tout, mais ça se passe plutôt pas mal. Et je finis par rester 6 mois à peu près en intérim.
Ah ok. Mais pas de nuit dans ce service.
Non, alors j'y reviens souvent. J'y reviens très souvent parce qu'ils ont pas mal de demandes. Je reviens même globalement dans la clinique. Mais je fais 6 mois d'intérim et là je me balade dans tout le canton de Genève. Je fais des jours, des nuits en gériatrie, en médecine, en chir. Je fais des soins à domicile. Je pense qu'aujourd'hui Je dis j'arriverai pas à refaire ça, mais si c'était nécessaire de le faire, je pense que je le ferais. Mais c'était un peu challengeant. Je faisais plus de 40, même quasiment 50 heures par semaine. Bon, voilà, je gagnais bien ma vie, c'était le moment de le faire, j'ai pas de regrets. Et j'ai bon espoir, et c'est ce que Manpower me dit, de trouver un poste dans un des lieux où je vais en tant qu'intérimaire. Et Manpower me dit, c'est souvent un truc qui se produit, vous revenez plusieurs fois, on vous repère, on est content de vous, puis au final, on vous trouve un contrat. Et c'est ce qui se passe. Voilà, j'arrive donc dans la fameuse clinique où j'ai rencontré Agathe, en intérim, je découvre une équipe, faut quand même dire, cette équipe. Elle est quand même unique, mais...
Coucou les filles.
Ouais, coucou les filles. Une équipe fabuleuse avec vraiment un... Tu vois, j'avais l'impression que je bossais à la fois avec mes copines, avec ma maman, une gentillesse, une bienveillance pas croyable, une clinique à taille humaine quand même, et j'arrive donc en salle de réveil. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas du milieu médical, salle de réveil soins intensifs, deux choses qui n'ont rien à voir, mais finalement des soins qui se retrouvent dans les deux services, une prise en charge assez similaire.
Continuité entre les deux, ouais.
Voilà, exactement. Et j'arrive là.
Ok, donc là, on est en quelle année ?
Là, on est en fin 2013.
Fin 2013, tu rentres dans cette clinique. Ouais. Et là, tu as tout de suite un poste, un...
Alors, j'ai un CDD, dans un premier temps, qui dure 6 mois. Je le prends, je me dis...
Deux jours ?
Deux jours, ouais.
Ok.
On faisait quand même toujours cette alternance jour-nuit,
ouais.
Mais on va dire 3/4 de jour.
Et là, tu es fixe dans ce service
Je suis fixe dans ce service. Je me dis je prends ce CDD parce que déjà ça peut mener un CDI, j'en sais rien, et puis ça m'offre au moins 6 mois de stabilité, et puis là à ce stade là je dis pas non quoi, à être un peu au même endroit.
Par rapport à ça, je voulais te demander ta meilleure anecdote et peut-être pas ton pire cauchemar, mais la journée la plus compliquée en soins intensifs, si tu peux expliquer peut-être quelque chose qui t'a fait rire ou sourire en tout cas.
Des anecdotes, j'en ai tellement. Alors,
je sais que t'as très bonne mémoire en plus, donc...
Des anecdotes rigolotes, j'en ai plein. Alors, faut savoir qu'en soins intensifs, il y a pas mal de gens qui délirent. Alors, c'est pas drôle, puis on se moque pas. Hein. Mais du coup, il y a pas mal d'anecdotes rigolotes. Il y a un monsieur qui était en plein délire, qui m'a prise pour un clown. Ouais, j'ai eu des choses comme ça.
Ok.
Ouais, j'ai eu des trucs très drôles.
Mais on te prend souvent pour un clown.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Il y a un monsieur qui m'a dit... Je suis comme dans un tableau impressionniste. Je lui dis, que c'est très...
poétique.
C'est très poétique. Il m'a dit, non, mais je suis myope et en fait, je vois rien. Donc, tout est flou. Ok, très bien. J'ai un monsieur auquel je me suis un peu liée d'amitié, qui avait 90 ans, un truc comme ça, qui m'a invité à boire le thé chez lui. Je n'y suis jamais allée. En fait, je regrette un peu parce que je crois que j'aurais bien aimé aller boire le thé chez lui. Puis j'avais peur que ça aille trop loin. Enfin, c'est un peu stupide, mais... que ça aille trop loin, pas... on va croire des trucs. Non. Je me disais, il faut peut-être juste que je trouve une frontière.
Ouais,
mais...
une barrière avec
lui. Une barrière, voilà. Ouais. Mais lui, c'était vraiment juste...
Par pure gentillesse.
Oui, vraiment. Ouais. Je l'ai revu plusieurs années plus tard. Moi, j'avais...
Il est revenu en tant que patient ?
Il est revenu en tant que patient. Moi, j'avais oublié son visage avec les années. Il s'est passé bien 3-4 ans. Et il m'a reconnu en salle de réveil. Et donc, j'ai l'impression que je retrouvais un vieux copain. Ah, comment ça va ?
Trop chouette.
Voilà. Et puis, une journée très difficile. Il y en a une que je retiens, mais que tu connais. Enfin, on en a assez parlé, mais en 2020, donc c'est tout récent. Un patient qui est décédé et qui n'était pas censé décéder, et puis qui m'a chamboulée sur plein d'aspects. Je pense que j'ai fait une très très grosse projection d'un truc que j'avais vécu, je sais pas, et voilà. C'est une histoire que j'ai jamais oubliée. Ouais. Je me souviens de son nom, de son prénom, de sa date de naissance, de tout.
Ouais, en fait, c'était une situation de réanimation qui, malheureusement, n'a pas abouti à un retour à la vie pour cette personne-là. Voilà, donc... C'est toujours des situations, enfin c'est difficile de toute façon pour tout le monde, mais ça après...
Et pourtant, avec le recul, avec l'autopsie, il n'y avait rien à faire.
Non.
Enfin, on avait tout fait.
Vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous étiez en nombre, vraiment, toutes les étapes ont été...
Ouais, c'est la vie.
Il n'y a pas eu de no-flow, enfin...
Non, c'était...
Pour ceux à qui ça parlera, mais c'était vraiment impeccable, c'est comme ça.
Mais c'est comme ça.
Malheureusement, on est obligé de faire face à ces moments-là, quoi. Par rapport à toute cette expérience en soins intensifs, salle de réveil, est-ce que tu penses qu'il y a un autre type de service qui pourrait te convenir ? Qui aurait pu te plaire ou qui conviendra plus tard ? Je sais pas.
C'est une bonne question. Alors, pour l'aspect connaître les gens, leur histoire, les soins à domicile. C'est d'ailleurs un choix de carrière auquel j'ai pensé plusieurs fois. J'ai fait des soins à domicile pendant un mois et demi d'affilée quand j'étais en intérim, justement. J'avais quand même eu cette petite période un peu stable dans l'intérim. Et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. En plus, on rentre dans l'intimité des gens, littéralement, parce qu'on rentre chez eux. Il y avait ce côté où on tissait du lien, où on n'est pas qu'une infirmière, justement.
Ouais.
Okay. Ça, j'aimais beaucoup. Ouais, ouais. Ça, c'est un lieu d'exercice auquel j'ai souvent pensé.
Ok. Ouais. Donc peut-être une perspective pour
peut-être plus tard. Peut-être plus tard, oui. Sinon, alors la médecine a plein de choses à offrir aussi. Okay. Moi, j'ai toujours été dans la chire, voilà, le post-op, etc. Mais je pense qu'en médecine, il y a plein de très belles choses à faire aussi. Mais globalement, je me ferme, à part la psychiatrie, globalement, je me ferme aucune porte. J'ai rien contre la psychiatrie, vraiment, mais c'est, je crois que c'est vraiment pas fait pour moi.
Pour un peu faire le tour de la question, est-ce que tu peux nous parler... Je sais que tu en as déjà parlé dans des vidéos, mais là, je pense aux auditeurs du podcast. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les différences entre la Suisse et la France dans ta pratique par rapport aux gestes ? Il faut savoir, pour les gens qui ne sont pas infirmiers, qui nous écoutent, il y a des choses qu'on a le droit de réaliser. Il y a des choses qu'on fait sur délégation, c'est le médecin qui nous donne le droit de le faire. On assiste aussi des gestes qui sont médicaux, qu'on n'a pas le droit de faire ou pour lesquels on n'est pas formé. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça ? Est-ce que tu as dû faire une formation spécifique pour être apte en Suisse, du coup ? Enfin, tu as parlé des démarches, mais je ne sais pas si... est-ce que c'est plus restrictif ? Enfin, si je le sais, mais je te pose la question parce que ça me semble intéressant. Est-ce que tu peux parler de ça ?
Alors, il n'y a pas de... L'équivalence du diplôme qu'on obtient auprès de la Croix-Rouge suisse, c'est vraiment une formalité administrative, il n'y a pas d'examen à repasser, de choses comme ça. Je parle pour mon cas en 2013, mais je crois pas que ça ait changé.
Ouais, c'est toujours comme ça.
C'est toujours ça. Donc je suis arrivée en Suisse complètement apte. Alors il y a un truc qu'on m'a dit, je ne sais plus qui me l'a dit, mais qui m'a dit « Ah ben en Suisse, donc voilà, vu que les Suisses ont cette réputation d'être toujours très zen, très calme, voilà, on m'a dit « Tu verras, on ne court jamais, il n'y a jamais d'excitation, il n'y a jamais de précipitation. » Et j'ai dit « Non, maman, on va falloir arrêter, c'est pas parce qu'on traverse une frontière que les gens sont radicalement différents. » Et ben, c'est vrai. Enfin, moi, pour l'avoir vu, à Lyon, beaucoup de nervosité, beaucoup de... parfois de précipitation qui peuvent...
Un peu de confusion.
Un peu de confusion, ouais, qui peuvent faire perdre un peu de temps, un peu de précision sur certaines choses. Et, enfin, je pense que tu l'as vécu autant que moi, mais en Suisse, moi, j'ai vécu des situations d'urgence où personne ne
d'urgence
parle plus l'autre.
On parle de détresse vitale, hein, où le patient va vraiment mal et où on doit travailler en collaboration plusieurs infirmières et un médecin. Donc, on est tous autour du lit, en fait. Hein.
Vraiment, genre une hémorragie massive ou une détresse respiratoire. Et vraiment, sauf rares exceptions, ça se passe toujours dans un calme. Mais fabuleux, quoi. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, personne ne crie. Il n'y a pas de... Même les gestes sont réalisés de façon plus sereine. Et en fait, on travaille mieux comme ça. Enfin, ça, c'est pas un mystère, mais c'est pas parce que c'est dans l'urgence qu'il faut se précipiter. Et en fait, on peut prendre le temps, même parfois, de se dire « Attends, juste deux secondes, là, je réfléchis. » Et en fait, ça, c'est pas du temps perdu. Et ça, vraiment, je l'ai découvert. J'y croyais pas. Quand on m'a dit « Tu verras, en Suisse, c'est différent, ils sont calmes. » J'ai dit « Non, bah, va falloir arrêter. » C'est genre comme le stéréotype, ils vendent des montres, ils aiment le chocolat, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Donc ça, je l'ai découvert. Après, au niveau des gestes, alors il y a un geste qui me revient, les gazométries artérielles. Donc les prélèvements, donc avec une seringue et une aiguille dans l'artère radiale, qui est l'artère du poignet, qu'en France, moi, je faisais, alors rarement, mais que je faisais, et qui en Suisse ne font pas partie des décrets de compétence des infirmiers. Voilà, donc c'est un geste qui est réalisé par le médecin. À part ça, j'ai pas de choses vraiment qui me viennent en tête d'un soin que j'ai pas eu le droit de faire en Suisse, que j'avais le droit de faire en France. Ou Après, je sais pas si c'est propre aussi à la clinique dans laquelle j'ai exercé ou est-ce que c'est la Suisse qui est comme ça. Je pense que c'est plutôt propre à la clinique. Je suis arrivée dans une clinique vraiment... on parlait des fameux protocoles, des procédures, mais il y avait un interlocuteur pour chaque truc. Il y avait toujours une réponse pour... quelle que soit la question, et cette impression de travailler avec un filet de sécurité, ou une ceinture, je ne sais pas. Je pense à Françoise qui dit « ceinture et bretelle », mais vraiment, c'est ça, quoi. Ça, c'était très confortable. Et parfois, j'osais m'en plaindre, parce que je me disais « mais on nous laisse plus réfléchir, tout est protocolisé », mais vraiment avec le recul. Je parle comme une vieille, mais ouais, vraiment avec le recul, c'est ça les bonnes pratiques.
Je sais pas s'il y a des auditeurs en Suisse ou pas, mais quand on parle de soins intensifs, il y a une petite différence entre les soins intensifs français et les soins intensifs à Genève. Est-ce que tu peux juste détailler pour que ça soit clair le type de service dans lequel on a travaillé ensemble ?
Donc en France, il y a vraiment la réanimation, les services où les gens sont intubés, ventilés, C'est un peu le service de la dernière chance où on retrouve les gens voilà, qui ont besoin de plus de surveillance, le plus de soins, etc. Et en dessous, il y a les soins intensifs, où la limite, normalement, c'est l'intubation. Donc un patient intubé, normalement, ne se retrouve pas en soins intensifs, ou alors pour une période un peu...
Enfin, une courte, période définie, très courte. Transfert ou une chose comme ça.
Exactement, sauf voilà, si on n'a pas le choix. En Suisse, la notion de réanimation, ça n'existe pas. On parle tout de suite de soins intermédiaires et de soins intensifs. Donc les soins intensifs étant la réanimation. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais...
C'est exactement ça,
et
ouais.
Les soins intermédiaires étant un peu ce qu'on appelle les soins intensifs ou soins continus en France.
Voilà.
Donc j'ai jamais exercé en soins intensifs en Suisse.
En Suisse, voilà. On est en soins intermédiaires. Donc les gens...
Exactement.
Non intubés.
Mais c'est même presque plus clair, quoi. Soins intensifs, soins intermédiaires. C'est plus... c'est quand même plus clair que la France, quoi.
Oui, nous... Enfin, c'est vrai qu'en France, c'est la réanimation, parce que c'est vrai que c'est le moment où il faut réanimer le patient, donc le terme, il est pas faux non plus.
Je sais pas si pour le grand public, c'est plus...
Non, pour plus nous, simple, dans les hôpitaux, c'est simple.
Ouais.
Peut-être pas pour...
Peut-être pas pour tout le monde.
Littéralement, c'est peut-être pas très clair. Bon, bah, on a fait un joli tour d'horizon de ta pratique, je crois.
Bah ouais.
Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu aurais aimé exercer comme métier si tu n'avais pas été infirmière? Évidemment, tu ne me réponds pas créatrice de contenu, ça ne compte pas. Journaliste, je ne veux pas l'entendre non plus.
Bah, je pense à une autre carrière paramédicale.
Ouais, ok.
Ouais. Et y compris orthophoniste. Tu vois, avec le recul, je pense que... Alors, je n'ai aucun regret sur mon choix d'études de carrière. Je pense qu'infirmière, c'est un métier qui est fait pour moi, qui était, qui sera, je ne sais pas. Je pense que j'aurais quand même été heureuse en tant qu'orthophoniste.
Ok.
Peut-être un peu moins heureuse, mais je pense que c'est un métier qui m'aurait convenu. Et j'ai enregistré un épisode avec Noémie, je l'ai écouté parler de son métier, ça m'a passionnée.
Ouais.
Kiné, ergothérapeute aussi, orthoptiste peut-être, ça m'aurait peut-être plu.
Donc tu te sens foncièrement soignante, quoi.
Ouais, foncièrement soignante et avec ce besoin viscéral de me sentir utile. Et à nouveau, non pas que les autres métiers soient pas utiles, un comptable est utile, une fleuriste est utile, un peintre en bâtiment est utile, mais ce côté avec cette dimension humaine qui est très importante pour moi.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené cette année à te dire stop? Pour recontextualiser, Marielle a lancé son podcast il y a une année maintenant, un peu plus.
Ouais.
Et ça fait depuis fin juin qu'on t'a perdu dans le service.
Oh, tu dis ça? On l'a perdu. Le gros élément, qui est pas si gros parce que c'est ma fille qui est toute petite, mais c'est elle qui a tout changé.
Ok.
Vraiment, c'est elle qui a tout changé. Cette envie de retrouver du temps pour elle, de pouvoir créer un métier... Bah comme je l'entends, ça veut dire avec mes envies, mes horaires, de retrouver du temps pour elle, c'est vraiment le noyau de la décision, je pense. Que sans elle, je pense que j'aurais encore continué pendant un bon nombre d'années à mélanger les deux exercices. Donc,
pour être très clair, de ton côté, il n'y a pas eu de syndrome de ras-le-bol post-Covid ou de choses comme
pas
ça.
Du tout.
Tu te sens pas lasse de tout ça, des soins, de la proximité avec les gens? C'est vraiment un choix pur, une décision familiale un petit peu pour toi.
Vraiment, je le vois comme ça. Et d'ailleurs, je suis partie en très bon terme de la clinique déjà. Je suis pas du tout partie en claquant la porte. On m'a dit, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? J'ai dit, mais pas du tout. Puis même, je suis persuadée au fond de moi que j'ai pas complètement dit au revoir au métier. Donc, je le vois vraiment comme une petite parenthèse dans ma vie. Où j'ai envie de retrouver du temps pour ma famille, pour moi aussi, hein, et c'est en tout cas quelque chose que je regrette pas, même s'il y a plein d'aspects du métier qui me manquent aujourd'hui. Mais par le biais de cet autre métier que j'ai, bah, j'arrive aussi à mettre un peu une dimension solidaire, humaine, voilà, je fais de mon mieux en tout cas.
Ok, et aujourd'hui, au bout de bientôt 6 mois où tu as arrêté ta pratique infirmière, Tu te sens comment?
Alors, je me sens très au clair avec mon choix.
Pas triste et plus nous voir?
Alors, parlons-en quand même, les copines, les collègues. Si, très, très nostalgique. Mais je sais, voilà, la preuve, on se voit à l'extérieur, donc ça continue, c'est chouette. Mais très nostalgique, je crois que c'est le terme Pour résumer tout ça, il y a plein d'aspects qui me manquent. En revanche, j'ai retrouvé une qualité de vie alors que j'avais complètement sous-estimée. C'est-à-dire qu'en arrêtant mon métier d'infirmière, je pensais juste que j'ai retrouvé un peu de temps. Et en fait, j'ai retrouvé du temps, oui. J'ai retrouvé une partie de ma santé, physique, mentale.
Parce que du coup, moi je sais quel était ton quotidien avant, mais on n'a pas bien détaillé, mais du coup Marielle, elle a son blog depuis plus de 10 ans.
Bon, bientôt 10 ans.
En tout cas, elle a concilié pendant longtemps un job d'infirmière en Suisse, donc avec de la route pour aller travailler, clairement. Et donc maman et créatrice de contenu. Donc, en fait, il y avait plusieurs activités qui étaient mélangées et finalement, ça s'arrêtait jamais.
Bah, ça s'arrêtait jamais, surtout que, bon, infirmière, c'était un temps donné dans la semaine, mais comme tu dis, il y avait les allers-retours. Alors ça, je refuse de m'en plaindre, parce que j'ai bien voulu habiter à Annecy, travailler à Genève, ça c'est vraiment... je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais à côté de ça, le métier de blogueuse, etc., ça me prend beaucoup de temps. Alors pareil, je m'en suis jamais plainte, parce que je l'ai bien voulu. Mais par contre, ça c'est XXL, quoi. C'est sans fin, en fait, parce que t'as jamais fini de créer, t'as toujours des trucs, des messages auxquels il faut répondre, des commentaires, etc. Donc j'en suis arrivée à un stade où ça devenait difficile de tout bien concilier. Sachant que ma priorité déjà c'était Inès, ensuite ma deuxième priorité c'était mon métier d'infirmière. Et puis le blog passait au troisième plan parce que j'ai pas de compte à rendre avec qui que ce soit et puis que j'ai libre à moi d'accepter des collaborations, des trucs, donc voilà, j'arrivais toujours à mêler tout ça, mais il y a un moment où je me suis dit que ça devenait difficile de tout gérer, et voilà, c'est un métier qu'on peut se permettre d'interrompre pendant une période donnée, qu'on peut reprendre plus tard, voilà, je dis souvent, on n'a jamais vu une infirmière au chômage,
ouais,
quand même, on travaille peut-être pas dans le service de ses rêves, mais en tout cas, on travaille, quoi.
On trouve toujours quelque chose, ouais, c'est sûr. Pour toi, c'est vraiment un temps et qui est dédié à ta famille, et... On peut imaginer que dans quelques années, on te revoit en blouse blanche alors.
Ben j'en sais rien en fait, mais en tout cas, je l'exclus pas. L'exclus pas du tout.
Ou peut-être en libéral.
En libéral ou.
T'as pas de plan défini quoi.
Non, j'ai pas de plan, mais je veux dire, si c'est devenir infirmière en labo et faire des prises de sang deux matinées par semaine, je le ferai. J'ai pas du tout raccroché la blouse en me disant mais plus jamais quoi. Vraiment pas du tout. Et suite à ce décès un peu compliqué au travail, il y a pas mal de gens qui ont pensé que j'arrêtais à cause de ça. En me disant, ah, mais t'as vécu un moment difficile, il y a plusieurs. Enfin, pas mal.
Il y en avait eu d'autres aussi avant.
Il y en avait eu d'autres avant, mais ça, en tout cas, ça a pas. Ça m'a profondément attristée. Mais...
C'était assez traumatisant parce que c'était une situation qui était. Enfin. Voilà, rapidement. Disons, chargée, quoi. Parce que c'était quelqu'un de jeune, voilà.
Mais ça a pas du tout précipité les choses.
Tu as réussi à passer au-dessus parce que bon, ça s'est passé en 2020 et toi tu as quitté la clinique en juin 2021.
C'est
donc
ça.
C'est vrai qu'il y a eu un long temps après. Est-ce qu'on ferait pas un petit portrait chinois ?
Allez.
Marielle, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors je crois que ça existe déjà, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Une machine pour voir les veines.
Oui.
Comme une sorte de... Alors, pas un échographe, enfin, voilà, pas un appareil à échographie, mais une sorte de... Je sais pas comment dire.
Mais Sylvain m'a parlé de lunettes que tu peux enfiler pour voir les veines. Apparemment, c'est en train de sortir.
Ouais. Ça, moi, ça m'aurait fait gagner un temps précieux pour pas mal de choses. Mais voilà, mais donc ça existe, donc... vivement, quoi. Vivement que ça soit plus répandu.
Ok, pour faire toutes les prises de sang que tu veux à tous les patients que tu veux.
Parce que j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps sur ce genre de choses et que j'ai fait très mal à des gens à cause de ça.
La phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail ?
Alors, dans mon ancien travail, du coup.
Oui,
alors, je crois que la number one, c'est « Bonjour, vous êtes arrivé en salle de réveil, tout s'est bien passé. »
Oui.
Qu'on ne dit que quand ça s'est bien passé, je précise. On ne dit pas aux gens d'office « ça s'est bien passé » alors qu'il y a eu un truc cata. On le dit que aux gens pour qui ça s'est bien passé. À répéter puissance 10 000 sur une journée.
Ok.
Mais je suis où ? Vous êtes en salle de réveil, tout s'est bien passé.
D'accord.
Mais je suis où ? Ouais.
Et ta phrase d'aujourd'hui ?
Et ma phrase d'aujourd'hui...
De ton nouveau métier ?
Ouais, c'est une bonne question. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour...
Voilà. Oui, la phrase de la vlogueuse, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce que tu nous disais aussi ?
C'est pas la cligne de ton père ?
Ah oui.
Non, c'est Françoise qui disait ça.
Ça, t'aimes bien dire ça. Et t'aimes bien dire... Non, tu nous dis...
Ciao les nazes.
Ciao les nazes, toujours en partant. Elle prend son sac et elle nous dit « Hey, ciao les nazes !» Toujours la même blague.
Que j'ai hurlé le dernier jour avant de partir.
Ça nous fait toujours rire, mais bon, voilà. Et tu dis... ça va les petits loups ? Qu'est-ce que tu dis ? Si, c'est ça. Ça va les petits loups ?
Oh non ?
Ah, tu dis un truc comme ça. Si, si, si. Tu dis « Salut les petits ». Aidez-moi les copines, là.
Ah, salut mon petit !
Voilà !
Ah, oui.
Salut mon petit.
Salut
c'est
mon
pas
petit.
Les petits loups.
C'est... Ouais.
Salut mon petit.
Salut mon petit. Ouais, ouais, c'est vrai que...
Au lieu de bonjour, tu me dis.
Bonjour. Bonjour mon petit. Salut mon petit.
Oui, salut mon petit.
C'est vrai.
Si tu étais un médicament, lequel serais-tu ?
Si j'étais un médicament... Si j'étais un médicament... Ah, oh, j'ai pas réfléchi à cette réponse. Ah, le...
La kétamine.
Non, non, non. Bon, la morphine.
Ah oui, tout simplement.
J'en ai administré des hectolitres. Enfin, c'est vraiment le... Et puis
on a
inventé plein d'autres choses, mais on y revient. Toujours. Et si on n'y revient pas, on retourne vers ses dérivés. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut être utile dans beaucoup de situations, la morphine.
Ouais.
Bonne réponse. Plutôt thé ou café ?
Bah, les deux, mon capitaine. Au boulot, thé, exclusivement. Je n'ai jamais bu de café au travail.
Et alors, depuis... Pourquoi ? On sait pas.
Bon. Il était pas très bon.
Oh !
Bon, ça va. Pas très bon. Donc un grand thé tout le matin, et puis pourquoi pas d'autres dans la journée. Et depuis que je travaille de la maison, beaucoup plus de café.
Mmh.
Au grand dam de mon cher et tendre.
Ce qui est très paradoxal parce que...
Oui, j'en ai jamais eu aussi peu besoin.
Plus normalement dans un service de soins qu'à la maison à faire des montages vidéo.
Mais clairement, ouais, je n'en ai jamais eu aussi peu besoin, mais je n'en ai jamais autant vu. Donc vous cherchez d'avoir.
Par pur plaisir. Plutôt Crocs ou basket ?
Oh, moi, je suis de la team Crocs.
Ouais, Crocs rose.
Que j'ai légué à Agathe, d'ailleurs.
Oui.
Crocs toute ma vie. Toute ma vie. Je sais pas combien de paires j'ai eu. Bah, pas de temps, en fait. Je suis en train de réfléchir parce que sur 10 ans, j'ai travaillé 11 ans. Une, deux... J'ai dû avoir 3 paires. Bon, c'est raisonnable. Pour vraiment quelque chose que tu portes 40 heures par semaine, c'est correct. Dans toutes les couleurs, toutes les formes. Avec plein de badges quand on pouvait en mettre. Après, j'avais plus le droit. Mais ouais.
Et du coup, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ? Parce que toi, c'est un petit peu les deux, du
coup. Ouais, c'est un peu... Alors, en tout cas, plutôt 10 ans dans la même spécialité, je dirais. Mm-hmm. Après, les lieux d'exercice... Je dis ça, je sais même pas si j'aurais fini par changer d'employeur. J'étais très contente là où j'étais. Dans un autre contexte, si j'avais pas eu le blog à côté, je pense que j'aurais fini par démissionner puis faire autre chose, juste pour avoir... Enfin, juste pour voir autre chose, justement.
Si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière, vers quelles études ou métiers te serais-tu orientée ?
Alors, du coup, j'ai dit les professions paramédicales, mais il faudrait que j'essaye de trouver autre chose. Un truc qui n'a rien à voir. Graphiste.
Oui. Ça fait sens, évidemment.
Un truc dans... Voilà. Déjà dans le domaine du web. Et graphiste, c'est... Alors, donc, je fais appel à des graphistes pour pas mal de choses. Et je suis toujours très, très emballée par ce qu'elle me propose. Je dis elle parce que je travaille avec des femmes. C'est pas par choix d'ailleurs. Mais je suis toujours très admirative, très curieuse de savoir, même qu'elles arrivent à déceler à travers toi, ton univers, etc. Donc je pense que c'est un métier qui m'aurait plu.
Ouais. Il y a le côté créatif aussi qui se retrouve dans ton métier actuel. Et...
Ouais.
Et toi, tu aimes tout ce qui est beau, enfin, tout ce qui est visuellement, en tout cas, travaillé et défini.
D'accord.
Ok, bah, je te remercie beaucoup, Marielle, pour
cet échange. Merci à toi, je suis pas persuadée que ça
sympa.
Soit intéressant, mais...
Ouais, tant pis.
Bah, c'est fait comme
c'est
ça.
Pour nous, c'était un bon moment, en tout cas.
C'était chouette. Merci, Agathe.
Merci. Il m'a fallu un an pour convaincre Marielle d'enregistrer cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous en saurez un peu plus sur ma très chère collègue devenue aussi amie. À bientôt.